Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au festival BD Les Courants. Nous sommes en direct de Saint-Ouen-les-Vignes où se déroule la 15e édition du festival et nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Pour animer cette émission, je suis en compagnie de Nicolas Vado, fondateur de La Ribambule, un site dédié à la BD. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nous allons recevoir dans cette émission Jappe Debord qui a dessiné l'affiche du festival cette année, Régis Loisel, Sylvain MS, Olivier Boyer de la librairie Bédélire à Tours pour une chronique coup de cœur et les organisateurs de ce festival avec notamment Claude Verne, vice-président du festival Les Courants. Bonjour Claude.
Bonjour.
Alors comment se passe pour l'instant cette 15e édition ?
Ben chaud. Il fait très bon, très très bon. Et non, ça va être une très bonne année encore. Les gens commencent à arriver juste après le déjeuner. Tous les auteurs sont là. Il y en a deux qui sont désistés, mais pour des raisons évidentes, des raisons de Covid. D'accord. Donc c'est Fred et Olivier qui peuvent pas être là. Mais bon, voilà, tout le monde est présent, tout le monde est enthousiaste, et puis ça se passe hyper bien. Beaucoup d'échanges comme d'habitude, je vais pas la répéter, mais c'est vraiment le festival familial par excellence où on peut venir avec ses enfants, échanger avec les auteurs en toute bienveillance et puis avoir des vrais échanges aussi sur leur parcours, etc. Je vois qu'il y a pas mal d'auteurs qui discutent entre eux pour essayer effectivement de voir comment faire évoluer leur métier aussi, leur parcours, leur propre parcours à eux. Donc c'est vraiment un lieu d'échange où on se sent vraiment bien.
Et en parlant d'auteurs, ils sont au nombre de combien cette année ?
Alors 24, puisqu'il y en a deux, comme j'ai indiqué, qui sont absents, 24. Alors ça va effectivement de têtes d'affiche comme Philippe Gauclair, Régis Loisel, à des gens un peu moins connus. Alors on a quelqu'un qui vient de Belgique, Basile, oui. Deux Italiennes, dont Cynthia qui revient cette année. C'est assez exceptionnel, on est contents tous. C'est notre famille, on est contents de les revoir. Et que ce soit les bénévoles ou le public qui revient régulièrement, certains qui sont pas là comme cette année, je pense en particulier à Philippe Larbier, tout le monde nous le réclame. Donc vous voyez, c'est vraiment une famille, donc c'est ça qui est intéressant. Ouais.
Il y a des auteurs habitués, des auteurs qui viennent pour la première fois, c'est le cas exemple de Jappe Debord qui a dessiné l'affiche cette année. Comment vous l'avez rencontré en fait ?
Alors Jappe, il était déjà venu il y a quelques années et là l'année dernière, il a eu un énorme souci en fait, sa maison a été détruite par un incendie et donc on a effectivement fait en sorte de l'aider. Donc par les réseaux sociaux, enfin je sais que ça a bien fonctionné un peu partout et puis on l'a invité. Et puis cette année effectivement, compte tenu de son projet qui était vraiment intéressant, donc c'est sa dernière BD qui s'appelle « J'ai embrassé une fille », très nostalgique. Très adolescence, c'est une madeleine pour beaucoup d'entre nous, hein. C'est très années 70, c'est le Marais Poitevin, c'est un style de dessin vraiment voilà, que beaucoup apprécient, donc je le conseille. Et donc, avec ses personnages, il a décidé, on a échangé, il a décidé de faire l'affiche, ça s'est fait très rapidement, hein, sur un coup de cœur, et en fond, vous avez effectivement Saint-Ouen, vous allez reconnaître Saint-Ouen, et puis ses personnages, c'est juste magique.
Un auteur qui sera sur notre plateau dans quelques instants. Et le festival est aussi l'occasion pour les auteurs donc de présenter leur dernier album, comme tu viens de nous le dire.
Là, par exemple, il y a Simon Hureau, donc il sera là qu'aujourd'hui. Je conseille à tous qui adorent Simon Hureau, qui est de Langeais, hein, pour ceux qui ne les connaissent pas, son dernier album est en dédicace aujourd'hui, c'est Sermilic. Tout le monde a adoré l'Oasis l'année dernière et énormément effectivement de dédicaces l'année dernière. En tout cas, je ne sais pas, Nicolas le sait, mais Simon Hureau, il va dédicacer toute la journée.
D'accord.
S'il était là dimanche, la dernière fois, on retirait les Barnum qu'il était encore en train de dédicacer. Donc voilà, tout le monde l'adore et profiter de son dernier album, c'est les premières dédicaces concernant cet album et c'est aussi une histoire de vie. Sermilic qui raconte la vie de quelqu'un qu'il a rencontré, il a voulu le dessiner et c'est juste magique.
On en parlait juste avant, il y a quand même pas mal de femmes autrices qui sont présentes. Il y a Sandrine Lemoux, autrice de la BD Kevin et Kate, Laurence Peggy, Aurélie Leclou Diallo, Giorgia Cassetti ou Cinzia De Felice. Un mot sur le travail de ces artistes.
J'allais dire, c'est peut-être plus difficile pour une femme. Le monde de la BD est impitoyable. Il faut gagner sa vie. On sait avec Philippe Larbier qui sort plusieurs albums par an, c'est compliqué. Et des femmes qui ont effectivement des qualités indéniables et qui pourraient faire des grandes dessinatrices, malheureusement, abandonnent. Cynthia, on la suit depuis très très longtemps. Là, elle reprend un album avec Claire de Lune. Giorgia Cassetti Bon, j'espère qu'elle comprend pas tout le français, mais comme beaucoup disent, c'est un bonbon sucré. Elle a 31 ans, je crois. Elle est adorable. Regardez ce qu'elle fait, c'est juste magique. Sandrine Lemoux, bah, on était très contents de l'inviter l'année dernière. Cette année, bon, c'est pas, j'espère qu'elle n'écoute pas la radio, mais on lui réserve une petite surprise pour tout à l'heure. Donc, non, on essaie effectivement de prôner le féminin, les dessinatrices féminines. C'est pas si évident que ça, il faut vraiment les aider, surtout celles qui sont voilà, sur le territoire. Après, vous avez bien compris, il y a deux Italiennes, mais voilà, c'est vraiment... c'est pas un métier facile, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Il y a aussi de la place donc, pour les auteurs locaux.
Et ça, on y tient énormément. Et je pense à des auteurs locaux, même amboisiens, qui viennent, même s'ils ne sont pas parmi la programmation, ils viendront nous dire bonjour. Je sais que Bruno Genini, directeur de BD Boom, va passer nous faire un petit coucou. Il y a une grande solidarité entre nous.
Ok. Et il y a aussi des habitués qui viennent vraiment régulièrement, voire presque chaque année.
Oui, bien sûr. Bon, il y en a un qui est incontournable, c'est Bruno Bertin. Et tout le monde le réclame. Et il y a des gens qui viennent très très loin pour voir, effectivement, pour pouvoir le rencontrer. Mais pas que ça. On parlait de Philippe Lardier. Larbier, c'est la première fois qu'il vient pas depuis 15 ans. Aurélie est originaire de Tours, c'est pareil. On en parlait tout à l'heure au niveau des femmes. Elle est là. Éric Ivars, ça fait au moins 3 fois qu'il vient. Henri Dufresne, on avait vraiment envie de le revoir avec Guéluron. Je suis sûr qu'à la fin de la journée, il aura vendu une bonne partie de ces BD, parce que dès ce matin, alors que ça ouvre à 10h, 9h30, il dédicacé déjà. Non, et puis surtout, notre idole, Régis Loisel, qui habite Amboise maintenant, avec qui, effectivement, on est devenus un peu tous les amis, la famille, donc c'est vraiment sympa. Ouais.
Et comment vous faites les choix des auteurs invités? Parce que c'est assez quand même diversifié, il y a beaucoup d'univers différents, c'est fait exprès, vous choisissez
vraiment? Les univers différents, c'est fait exprès. On aimerait même aller un peu plus loin sur le manga, un peu plus loin sur le comics, un peu plus loin sur pas mal d'autres choses. On revient à la ligne claire là, avec Sylvain Hémès qui arrive cette année, donc ça aussi c'est très particulier et c'est bien. Donc voilà, il faut que ça soit éclectique. Après, on ne peut pas répondre favorablement à tout le monde, parce que sinon on aurait 50, 100 auteurs, et ce qu'on veut c'est garder effectivement ce caractère familial comme vous le découvrez, et donc ça sera jamais plus de 30 auteurs quoi.
Okay. Et un auteur comme Jérôme Alquier, dont on parlait avec Nicolas, qui a fait Goldorak, qui a fait Les Chevaliers du Zodiac, ça pourrait être peut-être
bien
un
sûr,
jour
bien sûr. Sur festival. Ah ouais, ça c'est certain. On avait on a Jean Barbeau aussi qui habite Tours, qui a fait Il était une fois la vie, etc. Enfin voilà, là il fait partie un peu de la famille, même il vient de temps en temps, il passe sur le festival, il peut pas être là tout le temps, donc ça aussi c'est appréciable quoi. Notre festival est apprécié. Alors, certains le découvraient pour la première fois, ils ont vu que c'était un peu humide ce matin, mais malgré tout, voilà, ils se rendent compte qu'un festival en extérieur comme ça, ça vaut tout l'or du monde. Quoi.
Ouais, tout à fait. Et c'est un moyen de soutenir donc la BD, les auteurs, ce ouais. festival. Parce que c'est pas facile en ce moment et ça n'a jamais été très facile de vivre de la BD en fait.
Ça n'a jamais été très facile et je vois ce qui est intéressant avec l'école de Saint-Ouen, les gamins qui ont travaillé sur une BD avec les professeurs des écoles, là, je trouve ça vraiment sympa parce qu'on identifie toujours la BD au travers d'un dessinateur et en fait il y a plein de métiers. Il y a plein de métiers, il y a illustrateur. Là, si vous voyez Loïc Chevalier, là, il dédicace les frères Rubinstein, c'est lui qui fait tous les décors. Et il est génial comme dessinateur. Et voilà, il y en a un qui fait les décors, l'autre qui fait les personnages. Il y a l'ancrage, il y a l'imprimeur. Il y a plein de métiers. Et puis il y a l'éditeur, bien évidemment. Et souvent, certains passent, et on le voit par Ulule, des campagnes Ulule, etc. Parce qu'ils ne trouvent pas d'éditeur. C'est pas simple. Et justement... Il y a eu des belles histoires quand même sur ce festival, des gens qui se sont rencontrés, qui ont commencé à bosser ensemble et ça fait des beaux parcours. Quoi.
Et avec la pandémie, il y a des gens que vous connaissez qui ont dû arrêter?
Alors, je peux pas vous dire oui ou non, j'ai pas effectivement de faits qui me permettraient d'aller en ce sens. Par contre, on a une chance inouïe, c'est pendant la pandémie, notre festival, c'était quasiment le seul festival qui existait pendant l'année. Et je peux vous dire qu'on n'a jamais eu autant de monde que pendant la pandémie, ce qui pour nous nous a fait du bien et a fait du bien aux auteurs aussi, bien évidemment.
Et on peut rappeler donc l'esprit de ce festival, donc c'est l'idée de mettre, de permettre la rencontre entre les auteurs et les lecteurs. Mmh. Les gens sont proches en fait. Rapport à d'autres festivals où on doit faire la queue, on doit attendre.
Ça se passe pas comme ça. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Il y a des vrais échanges. Les auteurs n'hésitent pas à arrêter de dédicacer pour faire. J'ai une anecdote. Jean-Claude Mézières, qui est un immense auteur, hein, qui faisait Valérian et Léronine, que vous connaissez tous. Mmh. On était à l'époque, on était sur deux sites en même temps. À un moment donné, il m'appelle, Claude, écoute, je voudrais arrêter. Moi, je dis oui, t'arrêtes quand tu veux, t'es fatigué. Non, il dit c'est pas ça, je veux voir tous les bénévoles. Il a vu tous les bénévoles, il a pris du temps, il a fait une dédicace pour chaque bénévole. Ça, c'est inoubliable pour les bénévoles, parce que parmi les bénévoles, il y a des gens qui connaissent même pas la BD, mais rien qu'avoir un personnage comme ça qui passe du temps pour expliquer, échanger avec eux, leur faire une dédicace, c'est juste inouï. Et ça, on a du temps. On peut prendre du temps, on peut échanger. En plus, on se balade dans un endroit adéquat pour ça, quoi. Donc voilà.
Et puis, l'idée aussi, c'est le site. C'est un endroit convivial. Ça amène à...
C'est lié à cette commune de Saint-Ouen-les-Vignes. J'espère que tout le monde s'en rend compte. Que les Audoniens et les Audoniennes se rendent compte de la chance qu'ils ont. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que depuis le début, le comité des fêtes de Saint-Ouen est à nos côtés, quoi. Et donc, ça, c'est une chance inouïe, parce qu'on a les repas, on a plein de choses, quoi, qui sont organisées par eux, et puis le feu d'artifice le soir, donc voilà.
Et donc, est-ce que vous souhaitez garder cette taille de festival ou rester un festival un peu intimiste, comme actuellement ?
Je dirais pas intimiste, c'est la bonne dimension pour que tout le monde prenne du plaisir, y compris les auteurs de BD, y compris les bénévoles, y compris les amis qui gravitent autour de la BD, comme la Ribambule ou plein d'autres. Voilà, il faut de tout, il faut aller à Angoulême, c'est autre chose, oui. Et il faut faire le festival BD de Saint-Ouen ou d'autres petits festivals de village comme ça qui sont hyper intéressants.
Et puis, ce festival, il faut le rappeler, c'est aussi la mobilisation des bénévoles et du comité des fêtes de Saint-Ouen-les-Vignes qui sont présents quand même chaque année.
Chaque année, depuis le début, ils sont présents. Donc, j'aurai plein de noms à vous donner, mais je ne vais pas le faire. Là, aujourd'hui, la présidente, et à travers ses bénévoles, on les remercie. Merci tous. C'est Véronique qui est là depuis toujours avec plein d'autres. Je pense à Pierrot, Marie-Jo et tous ceux qui sont là depuis longtemps et qui nous aident. Sans eux, on serait incapable de réaliser la totalité de ce qu'on réalise aujourd'hui.
Et si on peut se rendre compte un peu du travail des bénévoles, en fait, c'est des journées... De combien d'heures, combien de jours avant le festival
Là, c'est tout au long de l'année déjà. Bon, heureusement qu'il y a Prise d'Assaut qui gère ça tout au long de l'année, parce que c'est pas simple. Après, le travail de montage, démontage, etc., ça a commencé dès le jeudi. Donc là, on a eu, je vais pas être polémique, mais on a eu des soucis effectivement avec le prêt des Barnums. Donc heureusement, et je les remercie énormément, on a eu des prêts de Barnums d'individuels, de la mairie de Montlouis-sur-Loire, de la mairie de Bléret, et qui nous ont aidés effectivement à trouver des barnums. Donc on a été un peu moins bon en bilan carbone, mais en tout cas, voilà. Mais ça veut dire que dès le jeudi, les bénévoles étaient sur le terrain, et jeudi, vendredi, toute la journée, on a monté les barnums, on a mis en place ce qu'il fallait. Et on a là, dans moins d'une heure, il y a un film qui va passer dans le foyer rural. On organise pour que ça se passe bien. On a des ateliers cet après-midi avec la MJC. La MJC aussi est très très présente. Donc voilà.
Il y a un atelier dessin tout à l'heure.
Ouais, voilà,
la
tout
MJC.
À fait. Ouais.
Est-ce que vous avez remarqué qu'il était difficile de continuer à mobiliser les bénévoles? Parce que dans beaucoup d'associations, quand même, ça a été remarqué, cette difficulté à trouver des bénévoles.
Alors le bénévolat a totalement évolué. Aujourd'hui, c'est des bénévoles d'une heure, c'est des bénévoles d'une demi-journée, c'est des bénévoles d'une journée. C'est comme ça qu'il faut concevoir le bénévolat. Donc il y a le cœur de l'association qui sont des bénévoles à temps plein, on va dire, qui s'engagent complètement. Mais moi, je le vois avec des applications qu'on a essayé de créer par ailleurs dans un autre de mes métiers. On crée des applis qui permettent effectivement d'aider une heure, deux heures. Typiquement, pour pas parler de nos associations, mais si vous prenez les Restos du Cœur, par exemple, on peut les aider deux heures lors de collecte, etc. Il faut plutôt envisager les choses comme ça. le bénévolat à temps plein pour des jeunes parents, pour des jeunes tout court, c'est compliqué. Donc, mais par contre, on peut effectivement, je vois par exemple les jeunes de l'école de Saint-Ouen, ben, ils sont présents et puis ils ont envie de partager, là, ils partagent leur BD, etc. Donc, et surtout, il faut que ça ne soit pas imposé par l'association. Alors je sais bien que c'est compliqué, pas imposé par l'association, mais il faut que ça vienne d'eux-mêmes.
Et une petite question que j'aime bien poser, est-ce que vous avez une anecdote, exemple, de bénévole ? Ou une petite anecdote qui s'est passée sur le festival ou... voilà.
Alors, des anecdotes, vous me prenez, tu me prends au dépourvu, on va se tutoyer. Des anecdotes, oh bah, pff, il y en a plein finalement. Un jour, on prépare le repas du midi pour les auteurs. Donc, on avait une belle cave Troglo, et puis c'était bien de trouver effectivement la possibilité d'accueillir les auteurs dans un Troglo. Et le bénévole qui faisait le repas, on allume la cheminée, et puis bah, la cheminée fume. Et donc, on a mis 2 heures à tout ouvrir pour essayer de faire en sorte que les gens puissent rentrer à l'intérieur.
D'accord, voilà. C'est en fumée complètement.
Et puis, plein de choses, des auteurs qui doivent arriver, et les champs sont en feu, donc le train est en retard. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant, on pourrait trouver plein d'anecdotes comme ça. Ouais.
Et tu aimes vraiment la BD ?
Oui.
C'est vraiment, est-ce qu'il y a un auteur un jour qui a été pour toi comme un enfant qui voit son auteur préféré venir sur le festival?
Non, j'ai jamais pu l'inviter sur le festival parce qu'il est décédé depuis. Moi, c'était Tibet et c'est Ricochet, donc la série Ricochet. Donc, c'est vraiment de la BD franco-belge qui aujourd'hui est repris par Simon Van Limpt et c'est juste exceptionnel. Et Tibet, j'ai voulu aller le rencontrer à Igny. Et vous voyez la différence entre un festival comme Igny ou ici. Alors, j'ai rien contre le festival d'Igny, hein, qui est un superbe festival. Mais c'était un tirage au sort. Donc voilà, tirage au sort, vous n'avez pas de dédicace. Donc, je l'ai vu de loin. Mais j'ai eu la chance de discuter avec Nicole Tibet, sa femme, qui est adorable. Voilà, c'est un souvenir. Mais bon, voilà, j'ai... Par contre, effectivement, je parlais de Jean-Claude Mézières tout à l'heure. Jamais j'aurais cru qu'il serait venu au festival de Saint-Ouen-les-Vignes. Je l'appelle au téléphone, donc je l'avais appelé 2 fois, etc. Et puis d'un seul coup, il me dit au téléphone, Claude, écoute, ça me plaît ce que tu me dis, je viens. Il dit, par contre, je demande qu'une chose, c'est que ma sœur puisse venir aussi, elle est illustratrice. Je dis oui tout de suite.
Et est-ce qu'il y a eu, un auteur qui t'a marqué particulièrement, mais peut-être pas pour son travail, mais amicalement ou je sais pas,
Non, c'est vraiment la famille des gens comme Simon, etc. Après, il y a un auteur, moi, qui nous a tous enthousiasmés, qu'on a adoré, qui aujourd'hui est en voyage en Corée encore, qui a un parcours assez exceptionnel. Il suffit de lire ses BD pour comprendre, c'est Jung. Et Jung, quand on l'a rencontré, je me souviens, sur son smartphone, il nous présentait les premières images de son film qui a été primé à travers le monde entier. Et j'aimerais bien qu'il revienne un jour, il reviendra nous faire un coucou un jour, mais voilà, c'est super. On a vu quelqu'un progresser de manière fulgurante comme ça, qui aujourd'hui qui est reconnu dans le monde entier, donc c'est sympa, quoi.
Et donc, ce soir-là, cet après-midi, plutôt, à 16h30, il y a un concert. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Ah bah ça, faudra en parler avec Jean-Luc Padiolo qui va vraiment nous expliquer ce que sont les concerts.
Et oui, et ils sont en train d'essayer le son d'ailleurs.
C'est le son du feu d'artifice, je crois.
Ah, c'est le son du feu d'artifice. Bah, on va en parler du feu d'artifice.
Tant qu'ils font pas partir le feu tout de suite, ça va.
Ça va aller. Donc feu d'artifice, c'est à quelle heure ce soir ?
23h.
23h, donc faut être présent à 23h. Il y a également des artisans d'art qui sont présents aujourd'hui.
Ouais. Donc faut venir les voir, c'est autant peinture que plein de choses, faut vraiment les voir, c'est venir les voir, elles sont adorables et il faut vraiment passer les voir, ouais. Et échanger avec elles, ouais.
Et demain, c'est à peu près le même programme ?
Même programme, Simon sera pas là, par contre, ça sera Crip qui sera là pour Studio Danse. Donc là, c'est pareil, ça va plaire aux plus jeunes.
Eh bien, merci Claude, vice-président Claude Verne, vice-président du Festival BD de Saint-Ouen-les-Vignes.
Merci beaucoup.
Et on va faire une pause musicale. On se retrouve tout de suite après avec Jappe de Boer et Nicolas Vado.
I felt loved you from the start. It grew inside my heart. It changed me from that day. This love I can't tame. For a sign, so patient and divine. For fame was on our side. That day I came to find that you. Oh, I was home.
Nous sommes de retour, toujours en direct sur le festival BD de Saint-Ouen-les-Vignes. Et Nicolas, nous recevons donc à présent Jappe Debord.
Bonjour Jappe.
Bonjour.
Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur, sur cette affiche en fait. Parce que cette année, vous êtes l'auteur qui réalise l'affiche.
Oui, tout à fait.
Alors déjà, l'année dernière, vous étiez présent sur le festival.
Oui, donc, ça fait 3 ans de suite que je suis présent effectivement ici à Saint-Ouen-les-Vignes.
Et du coup, cette année, donc, vous avez l'honneur de réaliser l'affiche.
On m'a demandé, effectivement, et alors, c'était agréable à faire.
Moi, je voulais savoir, cette affiche, habituellement, on a toujours un rapport avec Amboise, Léonard de Vinci, et cette année, eh bien, c'est Saint-Ouen-les-Vignes qui est mise à l'honneur, avec donc, des bâtiments.
Et, on n'est pas Amboise ici, on est à Saint-Ouen-les-Vignes.
À Saint-Ouen-les-Vignes, donc, tout à fait. Voilà. Avec la deux chevaux également, qu'on peut décorer,
exactement.
Et vos personnages. Donc, voilà. Est-ce que vous avez eu carte blanche, ou est-ce que voilà, vous aviez envie de mettre à l'honneur?
Non, ils m'ont laissé totale carte blanche. J'ai simplement proposé de mettre en avant mes personnages qui viennent de sortir en album. Ça fait quoi? Ça fait un petit mois. Et donc, ils m'ont laissé tranquille. J'ai fait ce que j'ai voulu. Ils m'ont simplement donné le format pour que je puisse effectivement me calibrer dans le côté affiche. Et puis, pour le reste, c'était tout, quoi.
D'accord. Donc c'était l'album qui vient de sortir, c'est J'ai embrassé une fille.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc l'affiche reprend un petit, enfin reprend carrément le style graphique.
Voilà, sauf le lieu évidemment, puisque ça se passait pas là, mais le style graphique totalement, oui.
Ouais, est-ce que vous pouvez nous parler de cet album justement ?
C'est un album de renaissance en fait. Il s'est passé quelque chose dans ma vie il y a un an. Ma maison a brûlé intégralement et donc j'ai tout perdu. Donc j'avais une collection de 15 000 livres. Très peu de bandes dessinées. Hein. J'étais collectionneur de livres de poésie ancienne. J'avais des éditions tirage limité signées par Lamartine, Nerval, Coppée, Chateaubriand. Tout est parti. Mes photos de ma jeunesse également. Et après effectivement une phase difficile, j'ai eu envie de me réapproprier une espèce de jeunesse qui était foutue puisqu'elle n'existait même plus en photo. Donc j'ai eu envie de... Qu'est-ce qui marque généralement un homme dans sa vie ? C'est les décès et c'est les amours. Et comme j'étais déjà dans une phase de perte, j'avais envie de contrebalancer en faisant une phase d'amour. Et donc je suis revenu tout simplement à mon premier amour.
Du coup, on peut considérer que c'est votre album le plus personnel ?
Indéniablement. Autant mes romans sont personnels, autant mes bandes dessinées jusqu'à présent ne l'étaient pas du tout. Celui-ci, c'est le plus personnel, indéniablement.
D'ailleurs, je voudrais revenir sur votre carrière. Vous avez débuté avec de la bande dessinée érotique ?
Pas du tout. J'ai commencé dans Pif Gadget. Je faisais les aventures d'un petit un qui s'appelait Calitaï. Et ça se passait à l'époque de Attila. C'était un gamin qui faisait des tas de stupidités. Et la seule personne qui arrivait à l'assagir, c'était une petite jeune fille qui s'appelait Sonia. Et donc, ça montrait la sagesse des filles par rapport aux garçons, tout simplement. Déjà.
D'accord.
Déjà.
Okay. Bon. Et puis ensuite, donc, la BD érotique.
Exactement.
Et vous avez été classé parmi les 100 meilleurs dessinateurs de femmes en BD par l'encyclopédie de la BD érotique.
Oui, tout à fait. Ça fait une vingtaine d'années. Maintenant, je serais certainement passé. Il y a beaucoup, beaucoup de dessinateurs qui sont très bons dans ce domaine-là. Mais en tout cas, à cette époque-là, oui, j'avais été bien classé, oui.
Et vous aviez fait, si je ne dis pas de bêtises, une parodie de Natacha.
Parodie
entre guillemets.
J'ai participé. C'était un collectif, hein, ce Nathalie, la petite hostesse. J'étais pas le seul à dessiner. On était plusieurs à dessiner. C'est qu'à la suite de cet album-là que j'ai pris le pseudonyme de Yap de Bourg et que j'ai travaillé ensuite tout seul. Mais Nathalie est un album collectif.
D'ailleurs, j'aimerais bien savoir les origines de votre pseudo.
C'est un annuaire ouvert par hasard. J'ai déposé le doigt sur un Yap de Bourg et à partir de ce moment-là, je me suis appelé Yap de Bourg. Et chaque fois que j'ai voulu reprendre mon nom et mon prénom normal, les éditeurs me disaient non, vous n'êtes pas connu, alors que Yap de Bourg est davantage connu.
D'accord.
Tout simplement.
Bon. Moi, comme
et
ça,
puis
on
ça,
connaît...
ça correspondait très très bien à mon côté Gémeaux, double identité, et à ma schizophrénie latente.
Et qu'est-ce que vous aimez raconter en bande dessinée ?
En bande dessinée, rien, j'aime pas dessiner, ou très peu. Si j'avais à refaire toute ma carrière, ce serait pas vers le dessin que j'irais. Le dessin est une frustration, parce qu'on ne peut pas, expliquer les choses telles qu'on peut l'expliquer avec des mots. Si par exemple j'ai envie de décrire un personnage qui a eu une jeunesse troublée, violente, en 3-4 dessins, en une page de dessin, on peut pas le décrire. Avec 5 mots et 6 phrases, on peut le faire avec des mots. De plus, la bande dessinée a un côté, je trouve, c'est un viol de l'audite, de la personne qui nous lit, parce qu'on lui impose sa vision personnelle, son univers, et c'est pas nécessairement celui de la personne qui nous lit. Donc, je trouve qu'il y a un côté. C'est une question que je me suis posée. Après la quarantaine, avant, je me posais pas cette question-là. Et c'est maintenant que je me la pose, parce qu'un jour, ma fille, elle me dit « Oui, mais papa, t'as dessiné ce personnage-là, et c'est pas du tout comme ça que je le voyais. » Et c'est là où j'ai pris une grande baffe, et je me suis dit « Mais ouais, évidemment, évidemment. » Et les lecteurs, se font pigeonner par un style que je leur impose, et que nous leur imposons.
Et du coup, vous retrouvez un petit peu ça dans vos romans, cette liberté
Ouais. Mais j'ai des grands thèmes récurrents hein, dans mes romans. Autant, effectivement, je passe pour un dessinateur pasticheur, coquin, érotique. Autant dans mes nouvelles et dans mes romans, c'est la mort, le sang, l'abondance, la perte, l'amour déçu, le suicide. Ce sont mes thèmes récurrents que j'ai vécu d'ailleurs depuis toute ma vie, depuis l'âge de 18 ans. Ce sont des choses qui m'ont marqué et donc qui me servent d'éléments narratifs pour écrire.
Et puis, vous écrivez également pour d'autres dessinateurs de bande dessinée. Vous avez déjà écrit pour François Valtteri, Bruno Di Sano.
Oh,
ouais, ça, 2009.
Oui, mais oui, c'était un petit truc qui était marrant à faire parce que bah, je m'entends très très bien avec François Valtteri et avec Bruno Di Sano, et donc j'avais envie de faire. C'est ma fille encore qui a été le moteur de cette collection Contes de fées, qui me disait mais papa, tu dessines que des choses pour adultes et moi je peux rien lire de toi. Et je lui ai dit, bah, écoute, je vais te faire une collection rien qu'à toi. Et donc, j'ai créé cette histoire. Donc, j'écris l'histoire. Et j'ai inventé trois personnages, trois fées différentes. Et donc, je me suis dit, bah, moi, je vais m'octroyer une des fées et je vais confier les deux autres à des copains. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Donc, moi, j'ai eu la fée ténébreuse qui n'aime pas les hommes, qui a envie de mourir parce qu'elle est dans une négation de la perte de sa mère. Il y a une fée gentille que dessinait François Valtteri qui voit tout beau, tout gentil et tout et tout. Voilà. Elle s'appelle Bouton d'or. Et puis, Bruno Di Sano a fait Coquelicot, qui était une petite fée maladroite que j'avais inventée. En fait, ça se passait, je faisais les crayonnés préparatoires, le storyboard complet. Et en fait, ils n'avaient plus qu'à décalquer mon storyboard et faire leurs images sur ce que je leur imposais, entre guillemets, quoi. C'était très sympa à faire. Le dernier album devait se faire avec Dean Eagle, grand dessinateur américain qui a travaillé sur Taram et le Chaudron Magique. Et le problème, c'est que la maison d'édition s'est cassée la gueule, donc il n'y a pas eu de suite. C'est dommage.
Et justement, tout à l'heure, on parlait de réaliser une BD et d'imposer une vision au lecteur. Et là, vous écrivez pour d'autres dessinateurs. Je ne l'ai fait qu'une fois. Ouais, mais est-ce que c'est agréable, justement, de voir ces mots retranscrits par un autre?
Non.
Graphiquement?
Non, mes mots n'étaient pas retranscrits par un autre, puisque c'est moi qui faisais le travail de storyboard.
Ouais, mais après, donc, c'est moi la composition.
Bah oui, mais on était un peu dans la même dynamique graphique. Ouais. Donc même si en réalité les gens m'ont souvent superposé au style Valtteri, alors que c'est pas du tout le mien. En réalité, je travaille sur une autre mécanique. Mais effectivement, c'était rigolo de mettre Di Sano, Valtteri et moi-même, où à l'époque on nous classifiait un petit peu dans le même très belge semi-humoristique, quoi.
D'accord. Alors là, j'imagine que là c'est la tournée. Des festivals pour le nouvel album, mais
non, pas forcément. Tant que ça. Je dois en avoir 4 ou 5 dans l'année, ouais. Pas plus.
Bah, du coup, alors l'actu pour vous en 2022?
À quel niveau? Au salon ou alors
en global pour.
Alors je suis en train de travailler sur un bouquin qui s'appelle Le Grimoire des petites sorcières, où effectivement je répertorie tous les livres sur un plan philosophique, ethnologique, historique, sur l'univers de la sorcellerie. Et je décide de barrer en vrille complètement, c'est-à-dire de prendre ces thèmes au départ sérieux et de les transformer complètement et de classifier les sorcières, d'expliquer qui elles sont, d'où elles viennent, pour que le lecteur ne sache pas où est la vérité et où est l'invention. Et ça va sortir normalement au mois de décembre.
D'accord.
Donc il y aura des recettes de cuisine, il y aura où est-ce qu'on les trouve, pourquoi elles sont classifiées gentilles, d'où elles viennent, l'origine du balai, l'origine de la citrouille, enfin voilà. C'est...
Alors du coup, ce sera avec un éditeur ou est-ce qu'il y aura une campagne de financement participatif?
Pas participatif, je veux plus travailler avec les éditeurs classiques parce que ça m'énerve, quoi.
Donc il faudra suivre votre actu sur les réseaux sociaux pour.
Il y en a qu'un, donc c'est pas dur, hein, c'est Facebook, c'est tout.
Et ben voilà. Donc Jacques Debourg sur Facebook, il faudra suivre ça de près pour participer à la campagne.
Voilà, donc ça c'est le projet.
Ouais.
Le deuxième projet, j'envisage effectivement dans la lignée de J'ai embrassé une fille, de faire un autre bouquin qui va s'appeler Chez Jeannot. Chez Jeannot, en fait, c'était en 75-76. C'était un café, un troquet où on se retrouvait avec le flip, le baby et tout ça. Et où on se racontait entre ados nos histoires d'amour, qui n'avaient d'ailleurs jamais eu lieu. On s'en inventait, c'était tellement pratique, surtout à 15 ans. Et je trouvais que ce lieu était intéressant et qu'il pouvait servir de base à des histoires qui me sont arrivées, toujours sentimentales, un peu rigolotes, des fois catastrophiques, souvent catastrophiques. Et donc ça sera le deuxième album qui sera traité de la même manière, dans des teintes sépia, et il ne sera pas du tout ancré, mais uniquement avec des crayonnés.
D'accord. Et un petit mot pour finir, un petit mot sur le festival, les bénévoles, sur l'organisation.
Moi je me sens à l'aise. Hein. Si tous les festivals étaient comme ça au niveau ambiance, ça serait bien. Déjà le lieu est paradisiaque, hein, entre deux petites rivières. Le seul truc qui me perturbe toujours à Saint-Ouen, il y a trop de soleil, quoi. Je déteste le soleil, quoi. Donc, mais sinon, l'ambiance est chaleureuse. Les gens qui s'occupent de nous sont vraiment adorables, quoi. Donc, voilà, ça fait 3 fois que je viens. Je pense que bon, ils me réinviteront de temps en temps encore, quoi. Je le souhaite.
Merci, Jacques Debourg.
Merci à vous.
Bon festival.
Merci Jacques Debourg et merci Nicolas. On va faire une pause musicale et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour, toujours en direct du festival BD de Saint-Ouen-les-Vignes et Nicolas. Donc, nous recevons à présent Régis Loisel.
Bonjour Régis.
Bonjour Nicolas.
Alors, c'est un honneur pour moi et pour tout le monde, je pense, de recevoir le Grand Prix d'Angoulême 2002.
Voilà. Ça fait un bail, ça, ouais, ça fait 20 ans. C'est 20
ans. Joyeux anniversaire, du coup.
Oh, bah dis donc, j'y avais même pas pensé. Ben, effectivement.
Alors, vous êtes un auteur quand même connu, déjà pour avoir le Grand Prix d'Angoulême, c'est quand même qu'il y a la qualité derrière. Donc vous avez été connu avec La Quête de l'Oiseau du Temps. Ma première question est, comment on gère une carrière quand on débute par un succès tel que celui-là ?
Oui, c'est vrai que c'est jamais évident de commencer sa carrière avec un succès, parce que ce soit dans la musique ou dans le cinéma, on vous attend au deuxième. Voilà, et évidemment, comme il y a un premier, on fait une comparaison avec le deuxième et on dit toujours « Ah ouais, mais c'est moins bien que le deuxième ou le troisième » parce que les gens ont aimé soit la première musique, soit la première BD, et ce qu'ils aimeraient, c'est retrouver la même chose. Et ceux qui retrouvent la même chose, ils disent « Oh, il fait toujours la même chose ». Donc, c'est très difficile de faire un deuxième opus, que ce soit dans n'importe quoi, je dis le cinéma, la musique ou la bande dessinée. Donc, moi, j'ai eu de la chance. Le deuxième a bien marché, le troisième aussi, puis voilà, quoi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce que avoir du succès comme ça, c'est une question de timing et puis de chance. Donc, je suis pas meilleur qu'un autre ni quoi que ce soit. C'est voilà, je suis arrivé au bon moment. Quoi.
Faut qu'il y ait une certaine alchimie avec son scénariste.
Oui, c'est ça. C'est un alignement de planètes, quoi. Hein. C'est l'époque. L'heroic fantasy en France, il y en avait pas beaucoup. On connaissait l'heroic fantasy américaine avec Conan le Barbare et puis des choses comme ça. Et puis bah, nous on est arrivé avec des personnages un peu différents qui étaient beaucoup plus basés sur leurs faiblesses que sur leur qualité et leur force. Et puis ça, il y a eu je pense que les gens se sont identifiés très facilement aux personnages qu'on leur proposait, quoi, parce qu'ils étaient humains.
On vous connaît aussi pour l'interprétation de Peter Pan, enfin voilà, la série Peter Pan.
Oui, mais c'est vrai, ça aussi, encore, on m'attendait au tournant. Hein, c'est vrai qu'on m'attendait au tournant. Parce que je dis, il a fait la quête de l'oiseau du temps, là, il va faire un truc en plus de ça en solo. Et puis non, c'était un pari quand même, parce que s'attaquer à un mythe comme Peter Pan, c'était pas évident. Et mon interprétation est pas du tout pour les enfants, c'est pas du tout rigolo, c'est un peu, c'est assez psychologique et c'est pas ce dont on s'attendait. Hein. Mais voilà, écoutez, ça a suscité une curiosité, parce que justement, la quête de l'oiseau du temps, on s'est dit, tiens, cet auteur-là, il fait un truc tout seul, allons voir. Et puis, paf, ça a marché. Donc, coup de chance, quoi.
Et puis, donc, vous dessinez des scénarios de d'autres scénaristes,
oui,
Serge Letendre. Vous écrivez vos propres scénarios également, que vous dessinez avec Peter Pan, par exemple. Mais vous écrivez également pour d'autres.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est aussi un pur hasard. J'ai jamais eu la prétention ni des velléités de faire des scénarios pour les copains. Ce sont des copains dessinateurs qui sont venus et qui me disent « Ah tiens, Régis, t'as pas une histoire dans tes cartons ?» Alors, je dis « Ouais, si, je ça, mais bon, alors ça parle de quoi ?» Donc je leur parle de ça. Et c'est des vieilles histoires, hein, qui datent des fois depuis 20 ans. Que ce soit Magasin Général, Le Grand Mort ou Un Putain de Salopard, c'est des histoires qui datent entre 40 et 20 ans. C'est fou, hein ? Donc je les ressors parce que je savais que... mais c'est pas prétentieux ce que je dis, hein. C'est, je savais qu'il y avait de quoi faire une bonne histoire, hein, parce qu'il y avait un thème qui était intéressant. Après, c'est pas suffisant pour dire ça va être une bonne histoire. Il faut la raconter, il faut qu'elle soit dessinée, il faut qu'elle soit mise en scène. Donc, et puis il fallait que je travaille avec d'autres gens. Donc comme je suis un dessinateur, c'est difficile de travailler avec moi, hein, parce que on me la fait pas. Quand je vois que le dessinateur va pas au bout de ce qu'il pourrait aller, je lui fais remarquer, je lui dis non, il faut recommencer, il faut aller plus loin, parce que puis voilà, puis mais c'est pas pour une question de vanité ni de d'ego, c'est juste parce que on fait un produit qui est la bande dessinée, qui est un produit qui doit faire rêver les lecteurs. C'est pour vous lecteurs qu'on fait ça. Il faut le faire au maximum. On n'est pas là pour faire des trucs à moitié. Alors ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais bon, ça paye.
Puis vous voulez tirer le meilleur de vos collaborateurs.
Mais bien sûr. À la fois, je les pousse et après, par la suite, ils sont reconnaissants. Ils disent « Putain, t'as bien fait de me pousser, parce qu'on a bien fait de changer ces images-là, parce que c'est vrai que c'est vachement mieux. Et voilà, mais c'est pas pour la ramener, moi. Hein, c'est pour les pousser à aller plus loin et puis pour faire un truc qui soit cohérent, quoi.
Et Régis Loisel, qu'est-ce qu'il aime raconter ?
Qu'est-ce que j'aime raconter ? J'aime raconter des histoires, et des bonnes histoires en général, mais on ne sait jamais si elles sont bonnes ou mauvaises. Mais on a toujours quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a toujours une petite impression en disant « je crois que ça va être une bonne histoire ». Si je la gère bien, je pense que ça peut être une bonne histoire. Mais on peut se planter, hein, j'ai pas la science infuse, on peut se planter. Bon, voilà, donc après on a fait Magasin Général avec notre ami Jean-Louis Tripp, mais là, ça a encore fonctionné. Et voilà, mais ça veut pas dire que je vais continuer à enchaîner les succès. Et les, voilà, j'ai déjà eu trois succès, c'est déjà formidable, quoi. faut pas exagérer après. Hein.
On pourrait peut-être considérer que vous avez la recette.
Si j'avais la recette, d'abord une, je l'aurais partagée avec mes copains dessinateurs, mais il n'y a pas de recette, hein. Ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de recette. Je crois qu'il faut faire les choses avec le cœur, avec honnêteté, et puis pas tricher, quoi. Voilà, bah après, bon.
Et ça vient tout seul. Enfin, tout seul. Il faut travailler, mais il ne faut pas chercher le succès.
Non, surtout pas. Soit il vient, bah, tant mieux, soit il ne vient pas, bah, tant pis, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé, quoi.
D'accord. Et en 2016, vous avez dessiné un Mickey, donc Café Zombo. C'était un rêve pour vous de.
Ah oui, complètement, ouais. Ah oui. Moi, je voulais être absolument faire un Mickey. Et quand Jacques Glénat m'a rappelé, parce qu'il savait qu'on parlait de Mickey tous les deux comme ça, mais bien des années auparavant, il savait que j'étais un fan de Mickey de la première époque. Et quand il a eu. Il a mis quasiment 5 ans pour obtenir la licence. Et une licence. De 3 ans seulement. Il m'a appelé, il me dit « Ah Régis, j'ai réussi à avoir la licence, donc si tu veux faire Mickey, c'est le moment ou jamais parce qu'on a 3 ans devant nous. » Et je lui dis « Bah écoute, je finis, j'étais en train de finir le magasin général, on était sur le dernier tome, le 9e, et je lui dis « Je suis ton homme après. » Donc j'ai fini magasin général, et puis j'ai fait Mickey. Et ça a été le grand pied pour moi. Je pense que c'est le truc où j'ai eu plus de plaisir. D'abord parce que c'est plus facile que de dessiner la quête ou de dessiner autre chose, pour moi, hein, j'entends. Et puis parce que c'est des personnages que je connaissais très très bien, quoi. Quand je suis au téléphone et que je discute comme en gribouillant sur un papier, c'est toujours un dessin animalier que je fais. C'est toujours un truc à la Mickey, enfin un personnage animalier. Donc je connais très très bien ces codes graphiques, quoi. Donc c'est, pour moi, je n'ai pas eu de difficulté à le faire et à l'aborder. Bon, après, il fallait trouver un scénario qui puisse contenter tout le monde. Et je sais d'ailleurs toujours pas comment ils m'ont laissé faire, quoi, parce que c'est vraiment, c'est tout ce qu'ils voulaient pas. C'est violent, c'est un petit côté politique, un peu social, et puis je me fous un peu effectivement des puissants, voilà, et puis de McDonald's, et puis des choses comme ça, quoi.
Mais est-ce qu'il y avait des contraintes justement imposées par
Disney?
Mais
c'est pour ça que
j'avais un cahier des charges.
Voilà, c'est ça. Mais je me suis pas posé la question parce qu'il était hors de question que je, pour moi, de mon côté, parce que je suis pas con quand même. Je savais très bien que si je faisais Mickey en train de butiner Mimi dans sa chambre, ça n'aurait pas, ça serait pas passé. C'était pas le but de faire un pastiche provocant de Mickey. Ça n'avait aucun intérêt, d'ailleurs. Tous les gens qui ont travaillé sur Mickey, ils savaient très très bien, ils n'allaient pas s'embêter à faire ça. Mais si tu veux, au niveau du fond de l'histoire, il y avait effectivement une charte. On était cadré, mais je me suis pas posé la question parce que je savais que je devais pas aller à tel ou tel endroit. Mais j'ai fait mon histoire, et puis voilà. Mais je savais pas si ça allait passer ou pas. Et voilà. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était de faire un Mickey. Voilà, de faire des. Alors, je l'ai fait en strip comme j'aimais. J'ai fait des grands strips comme on faisait à l'époque. Voà, j'avais mes petits originaux de Mickey.
Ouais,
voilà.
Parce que les formats qui sortent chez Glénat n'ont rien de comparable à celui-là.
Ah non, parce que moi je voulais prendre le Mickey d'origine, du début des années 30, qui sortait dans les journaux. Donc c'était ce qu'on appelait des strips, des bandes illustrées, donc des strips. Et voilà, et je voulais le faire comme ça. Alors c'est une mécanique complètement différente de la page entière, c'est complètement différent. Il faut qu'à chaque fois dans les strips, il y ait, je ne dis pas qu'il y a un gag, mais qu'il y ait quelque chose pour amener sur l'autre, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une gymnastique particulière, mais je n'ai pas eu de difficulté à faire ça, quoi.
D'accord. Et vos projets, alors du coup, à venir
Alors là, je suis en train de. Il y a un putain de salopard, le tome 3, qui est terminé. Et on est en train de. François Lapierre est en train de terminer les couleurs. Il vient de sortir, là, il y a une semaine, là, le 8, le septième tome, je crois que c'est le septième tome de La Quête, ouais, dessiné par David Etienne. Le prochain, qui sera le dernier de ce cycle-là, du deuxième tome, sera dessiné, lui, par Vincent Mallier. Donc Vincent a déjà fait une vingtaine de pages. Ça va être un 98 pages, donc un gros morceau.
Vous avez collaboré sur Le Grand Mort?
Oui, Vincent Mallier, qui avait fait déjà de Quête et avec qui on a fait Le Grand Mort. Voilà. Et puis moi, de mon côté, je suis en train de faire un scénario qu'on a sur une idée de départ de Jean Blaise Jean, qui lui était co-scénariste du Grand Mort, qui est le cousin de ma femme. Voilà, donc ceci explique cela. Et puis c'est un truc complètement loufoque. Alors je fais le dessin, évidemment, c'est un one shot de je pense que ça va faire entre 130 et 140 pages. Et voilà, j'en suis à la page 76 et voilà, ça avance doucement et je prends mon temps parce que personne m'attend, c'est pas annoncé, donc ça sortira quand ça sortira. Je pense que vraisemblablement ça devrait sortir l'année prochaine fin 2003 peut-être. 2023.
D'accord. Et pour conclure, alors, vous êtes un régional d'étape, on va dire ça comme ça, parce que Claude nous l'a déjà précisé tout à l'heure. Hein. Et quand on a connu le Grand Prix d'Angoulême, dédicacé dans des grands festivals, est-ce qu'on prend, j'imagine qu'on prend aussi du plaisir à venir sur des plus petits festivals comme celui de Saint-Ouen-les-Vignes?
Oui, bien sûr. Puis habitant dans la région, c'est ça me dérange pas. Puis Claude est un type formidable, l'équipe est formidable, donc.
Tout à fait.
Et c'est quand même, je ne sais pas si les gens sont venus déjà à Saint-Ouen-les-Vignes, je vous invite à venir, festival ou pas festival, d'ailleurs c'est un très joli petit village, entouré d'une petite rivière, avec des truites et des choses comme ça, pour les pêcheurs, et ça c'est pour la pub, hein. et voilà, et c'est vrai que c'est bien dans un petit festival, parce que ça me permet de rencontrer des gens que je n'aurais pas l'habitude de rencontrer, qui sont soit des locaux, enfin des régionaux, des dessinateurs que je ne connais pas et que je les rencontre, on parle et voilà, et c'est très sympa ces rencontres là quoi. Donc je vais quelquefois dans des petits festivals comme je vais dans des gros, mais je vais à Angoulême, à Saint-Malo et à Blois, et puis après je m'arrête là quoi. Hein. Puis le reste, de toute façon, je passe pas mon temps dans les festivals parce ça bouffe de l'énergie. Et puis ça va, j'ai fait ça pendant 40 ans, je peux très bien. Voilà. Et alors ici, je pense que je vais être un habitué. Malheureusement, vous allez me voir régulièrement chaque année.
Avec plaisir.
Voilà, et voilà, je suis à 5 minutes en bagnole, donc c'est quand même pas. Ce serait quand même un peu stupide de ne pas venir. Quoi.
Non, et puis c'est l'occasion de vous rencontrer dans un cadre super agréable et puis sans avoir la folie des grands festivals,
une
foire d'empoigne pour avoir une dédicace.
Et de toute façon, je rassure les gens, je ne fais plus de dédicace depuis 15 ans. Je ne fais plus de dessin dans les albums. Je fais un petit mot, je discute avec les gens. Et c'est très bien, les gens sont très contents parce qu'il y a une rencontre.
C'est ça, un échange.
Et puis il y a du monde. J'essaie d'abréger un petit peu la rencontre parce que je suis assez bavard, donc je vais raconter ma vie à chaque fois. Donc ça peut prendre du temps. Mais autrement, quand il n'y a pas trop de monde, je réponds à leurs questions. On papote, quoi. Voilà.
Comme on vient de le faire.
Exactement. Voilà.
Merci Régis. Bon festival.
Eh ben merci à vous et puis que les dieux bons vous accompagnent.
Merci.
Eh bien merci Régis Loisel, merci Nicolas. On fait une pause musicale, on se retrouve tout de suite après avec Sylvain Hémès. I don't know. Toujours sur Radioactive et nous sommes de retour en direct du festival BD de Saint-Ouen-les-Vignes avec Sylvain MS et Nicolas Vado. C'est à toi Nicolas.
Bonjour Sylvain.
Bonjour à tous.
Bon alors du coup c'est ta première venue sur le festival de Saint-Ouen-les-Vignes.
Voilà tout à fait. Alors je fais beaucoup de festivals mais c'est la première fois que je viens dans la région.
Voilà. Et donc du coup pour l'instant après ta première matinée.
Bah écoute, on est très bien accueillis, le cadre est idéal, y a un petit peu de monde, c'est bien, y a pas mal de dédicaces. J'avouerai que je tourne pas mal depuis ce matin et je suis content de venir à la rencontre des lecteurs de Saint-Ouen.
C'est ça, des lecteurs qui te découvrent donc.
Pas tous. J'en ai tous. Certains en fait qui viennent des plateformes de financement Ulule, ouais. Donc ils viennent me voir parce que Ulule c'est très bien, mais on n'a pas les gens en face de nous. Donc ils ont envie aussi de se faire connaître, de voir ma tête. Parce que voilà, auteur de BD, on voit pas forcément leur tête. Et surtout discuter, parce que c'est des gens qui me soutiennent depuis le départ. Je suis à 8 livres maintenant, donc 8 campagnes Ulule, et bah, les gens ont envie d'en savoir plus, tout simplement.
Et de faire connaissance, du coup, avec un auteur qui a un parcours un peu... Enfin, wow, tu me diras, certains auteurs ont un métier à côté. Toi, tu travailles dans la finance. Et puis, finalement, tu t'es dit, bah, je vais me consacrer à 100% à la bande dessinée.
Voilà. Comme je le dis toujours, la vie ne vaut pas d'être vécue si on la vit pas comme un rêve. Alors, être dans la finance, c'est très bien. On gagne très bien sa vie, mais on vit pas. J'étais cadre, donc je commençais très tôt le matin, je finissais très tard le soir. C'est pas viable. Et depuis gamin, donc ça fait, comme je dis toujours, 28 ans que je fais de la bande dessinée. J'en ai 38, donc j'ai commencé à 10 ans. C'est le métier que j'ai toujours voulu faire. Et ben, il y a un moment, on lâche ce qu'on n'aime pas et on fait ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire. Et si tu veux, j'ai perdu mon meilleur ami qui était Quentin Elias, le leader du groupe Alliage, et ma grand-mère le même jour. Et Quentin est parti très jeune. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait mourir du jour au lendemain. Et je trouvais ça un peu bête de ne pas réaliser mes rêves. Surtout que ce sont des rêves qui sont à ma portée, vu que je dessine depuis très longtemps. C'est pas comme si je disais du jour au lendemain, je vais aller sur la Lune. Tu vois, c'est pas réalisable. Mmh. Là, c'était réalisable juste avec de la volonté, du courage, parce que c'est un métier quand même, je travaille 10 heures par jour. Donc c'est pas rien, faut donner énormément d'investissement, faut bouger tous les week-ends en salon aussi, je vois pas ma famille forcément les week-ends, j'ai deux enfants, donc on donne beaucoup de soi, mais au final le lectorat vous le rend bien. Voilà.
Et tu parlais justement des campagnes Ulule, donc tu gères tout l'aspect de A à Z, de l'écriture, du dessin, la couleur, enfin
Voilà,
la vente, voilà.
Je suis ce qu'on appelle un auteur indépendant. Donc, je dépends de ma propre maison d'édition. Donc, je suis auteur, scénariste, coloriste, lettreur, éditeur, pas imprimeur. C'est la seule chose que je ne fais pas. Mais je m'occupe aussi de la campagne de communication des livres. D'ailleurs, en ce moment, on est sur Facebook en même temps pour mon lectorat qui me suit parce que je leur donne régulièrement des nouvelles sur ce que je fais. En fait, je montre aussi un peu ma vie. C'est ce que le lectorat aime bien aussi, avoir un espèce de making-of.
Et ton expérience dans la finance, t'es utile, j'imagine ?
Oui. Bah, en fait, j'ai fait des études de marketing avant tout. Donc forcément ça m'aide, oui, pour promouvoir mes bouquins. Maintenant mon expérience dans la finance, non, j'ai pas des crédits gratuits parce que j'ai bossé dans la finance, on va dire, hein. Donc forcément ça m'apporte pas plus que ça, et surtout que dans la finance je faisais que du management, donc j'étais pas vraiment au cœur du métier, je gérais des gens, et voilà, c'est tout. J'ai travaillé dans la finance mais j'étais pas spéculateur ou trader, quoi.
Et alors toi, ton style, c'est la ligne claire?
Tout à fait, la ligne claire que vous connaissez tous avec les aventures de Tintin ou les aventures de Bécassine pour les plus anciens aussi. C'est la ligne claire, c'est un mouvement graphique qui est très peu représenté aujourd'hui. On trouve malheureusement très peu d'albums en ligne claire parce que c'est has-been, comme le disaient si bien les éditeurs que j'ai contactés et qui aujourd'hui viennent me manger dans la main. Non, ça fait un peu hautain de dire ça, mais c'est malheureusement la vérité. C'est pas du tout has-been, c'est un mouvement qui touche tout le monde parce qu'il n'y a pas un lectorat particulier, c'est de 7 à 77 ans, maintenant c'est 99 ans. Et vous avez autant les vieilles personnes qui sont contentes de venir vous voir puisqu'elles vont revivre la joie de redécouvrir un album. Parce que les Tintins, ça n'existe plus, il n'y a plus de nouveaux albums. Mais avec mes albums, vous en avez deux par an, donc forcément, tous les 6 mois, vous avez une nouveauté à redécouvrir.
Et toi, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas Hergé ton mentor, mais Bob Demour.
Aïe, 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 Hergé. On va éviter d'en parler. C'est Bob Demour que j'ai adoré, même si j'ai jamais eu la chance de le connaître en vrai. Maintenant, j'ai aussi d'autres maîtres de la bande dessinée qui sont amis avec moi, comme, malheureusement, Malik nous a quittés, mais Marc Westerlin, Marc Hardy, toute la génération Dupuis avec laquelle j'ai grandi. Parce que même si je dessine en ligne claire, ce n'est pas la ligne claire que j'ai lue, en fait, étant enfant. C'est l'école Marcinelle, donc Spirou. Toute la famille Covin, qu'on les appelait comme ça à l'époque. Et j'ai appris à dessiner sur Tintin. C'est pour ça que j'ai gardé ce mouvement graphique-là, puisque dans les Spirou, j'aimais pas les personnages élastiques, tu sais, avec des bras qui se plient pas vraiment, des jambes à rallonge. Et les personnages n'avaient pas de fesses, en fait, si tu regardes bien dans les Spirou. Ça me dérangeait. J'avais du mal, pas pour autant que je mate les culs dans les BD, hein, mais mais voilà, ça reste quand même un moyen de distraction qui essaie de se rapprocher de la réalité, même si ça reste simpliste au niveau du dessin.
Alors, même si ton objectif principal, c'est de créer tes propres histoires avec tes propres personnages, t'aimerais bien, il me semble, tu rêverais de reprendre une série, ouais, Barelli.
Voilà, qui s'appelle Barelli, donc qui est la série, pour moi, phare de Bob Demour, même si d'autres vous diront Coril Moussaillon. Moi, j'ai adoré Barelli. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'Elias a une Alpine, qui est la même voiture, voilà, ouais. Qui est la même voiture que Barelli. J'ai juste changé la couleur. Et c'est pour ça qu'aussi Elias a le même métier que Barelli, puisque le tout premier album, Le Vol du Bleu de France, était à l'origine un essai pour une reprise de Barelli. J'avais dessiné 14 pages du Bleu de France, mais avec les personnages de Barelli.
D'accord. Et là, on va revenir donc sur tes propres séries. Donc, il y a 6 albums d'Elias, si je ne dis pas de bêtises, et une enquête du commissaire Arthur.
Voilà.
Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces séries-là ?
Alors oui, je peux te les présenter. Alors, ce qui est compliqué, c'est que chaque album est indépendant l'un de l'autre. Donc forcément, à chaque fois, on part sur une nouvelle histoire, un nouvel univers. Même Retour vers le futur et Perdu dans les couloirs du temps, c'est donc un album qui parle du même thème, à savoir le voyage dans le temps. L'un est indépendant de l'autre, pourtant à la fin du premier, c'est marqué à suivre. Mais quand on regarde Le Trésor du Rakam le Rouge et Le Secret de la Licorne, on peut les lire aussi indépendamment l'un de l'autre, alors que ce sont des suites. Donc c'est des aventures d'Elias, un comédien journaliste qui va vivre des choses palpitantes au travers 48 pages de lecture qui s'adressent bien sûr à tous les amoureux de la ligne claire, de 7 à 99 ans.
Et il me semble que pour les enquêtes du commissaire Arthur, c'est un peu différent. Enfin, si tu en refais, Ce sera des commandes en fait de, voilà. de régions ou de villes.
Voilà,
pas,
c'est ça. Donc les enquêtes du commissaire Arthur, c'est une série parallèle que je réserve aux communautés, donc aux communes, pardon, pas aux communautés, donc aux villes qui souhaitent faire une aventure dans leur ville. Le premier album donc se passe dans la ville de Nocelles, c'est un village en Aveyron, et donc je plante l'aventure dans le décor de la ville. Pour que ça plaise aussi aux gens qui y habitent avant tout, parce que faut pas oublier une chose, c'est que le français est très chauvin, il aime très énormément sa région et que on oublie ça souvent, et il y a pas beaucoup d'albums en fait. Raconter l'histoire de la ville, c'est pas mon truc, je ne fais pas de la BD historique. Par contre, des décors, j'en ai besoin tous les jours, mmh. et je trouve ça plus intelligent de faire évoluer mon personnage là où je vais en festival que de le faire évoluer en Russie, en République tchèque ou je ne sais où j'irai jamais y mettre les pieds. Voilà.
D'accord. Donc du coup, si certains nous écoutent et ont envie...
Venez. Voilà. C'est pas Enrico qui dit donnez, c'est venez.
Du coup, contactez Sylvain sur sa page Facebook.
Voilà, la page Facebook, c'est Elias Les Aventures, donc qui est la page officielle où vous verrez où je suis également en festival, vous voyez les dédicaces, en fait, vous voyez toute ma vie professionnelle, pas personnelle. Voilà, sinon, il y a le site officiel jm-edition.com. Et puis la page Ulule sur le site ulule.com ou .fr, je sais même pas. Ouf, la honte. sur lequel vous retrouvez aussi les albums en financement tous les 6 mois.
C'est ça, on peut t'en commander, on peut peut-être même te commander des dédicaces, non?
Voilà, on peut. En fait, sur Ulule, c'est le principe justement, la personne achète l'album en précommande avec une dédicace en fonction de la somme qu'il veut mettre sur le projet. Donc ça passe du simple buste en couleur jusque la dédicace en pleine page où je fais une vraie page de bande dessinée pour la personne. Donc c'est vraiment un original unique.
D'accord. Et en 2023, donc il y aura un nouvel album d'Elias qui s'appelle Carnaval.
Voilà, il y en aura deux. Le prochain album d'Elias prochain, s'appelle oui. Carnaval et aura lieu dans la commune de Douai, dans le Nord, avec les géants de Gaillan. Et le second s'appellera Destination Mars, puisque Mars, c'est la grande folie en ce moment avec Monsieur Elon Musk. Donc moi, je vais les faire partir sur Mars ou pas. Telle sera la question, puisqu'il ne faut pas oublier que mes aventures se passent dans les années 80. Et que dans les années 80, à Mars, c'était pour les films de science-fiction et pas la réalité. Donc on verra bien, ça je ne vais pas trop en dire. Mais oui, deux super albums à venir, hein, sur lesquels Carnaval, j'ai déjà fini. Et Destination Mars, je suis en train de finaliser le scénario.
Et la campagne de financement est déjà...
Non, elles sont prévues pour l'année prochaine. Je fais deux D'accord. campagnes à l'année. Là, les deux ont eu lieu parce que malheureusement, le papier, ça augmente énormément.
Ouais, ouais. Hein,
c'est de la matière première. Mm-hmm. Alors pourtant, je ne fais pas imprimer en Ukraine, mais bon. Voilà, merci les Chinois. Et donc j'ai fait les deux campagnes de l'année en début d'année et là je ferai les deux campagnes l'année prochaine en fonction de mes albums. En fait, si tu veux, je travaille pas en flux tendu, c'est-à-dire que quand je sors un album, le suivant est déjà terminé. Ça me permet aussi, si un jour je tombe malade, de toujours proposer les deux sorties annuelles à mon lectorat qui les attend toujours. Avec impatience de ce qu'ils me disent sur Ulule, parce que j'ai de très bons retours. Il faut savoir que c'est tout le temps les mêmes qui mettent sur Ulule, et grâce à eux, je les remercierai jamais assez, parce que c'est grâce à eux que les albums existent. Parce qu'en festival, les gens découvrent, alors que sur Ulule, ce sont mes lecteurs fidèles.
C'est ça, ça permet la réalisation d'albums, du financement. Bah, de toute façon, c'est ça, hein, c'est une campagne
c'est un
de financement,
participatif. Voilà.
Chose que habituellement, le rôle est donné à l'éditeur. Mais là, au moins, tu as ton indépendance, tu fais ce que tu veux, et voilà, et tes lecteurs te soutiennent.
Mes lecteurs me soutiennent, mais je les fais également aussi participer, étant donné que j'ai un comité de lecture comme un grand éditeur. C'est-à-dire
D'accord.
que je choisis pour chaque album au hasard 10 personnes. Masculin, féminin, en fonction aussi des informations que j'ai via le fichier Ulule. Et je leur envoie ce qu'on appelle le script, le découpage. Et j'attends leur retour avant de commencer les crayonnés de l'album. Comme ça, je peux changer les scènes qui ont un peu moins plu ou je peux améliorer d'autres. Enfin, ça me permet aussi d'avoir un retour aussi sur l'histoire, même si les crayonnés, si tu en as déjà vu, c'est... Enfin, c'est même pas les crayonnés, c'est le découpage. C'est assez succinct, en fait, comme dessin. C'est même pas du croquis. Et ensuite, une fois que j'ai fini ça, j'envoie à des correcteurs d'orthographe pour la correction, ce qui fait que j'ai le même rôle qu'un éditeur, sauf que je ne suis pas Monsieur Dupuis ou Monsieur Casterman, et que je suis JM Édition, tout simplement.
D'accord. JM Édition, alors tu peux nous expliquer le nom pour terminer ?
Alors JM Édition, oui, c'est les initiales de ma fille, tout simplement, parce que Sylvain MS est un pseudo. C'est pas mon vrai nom de famille. Et donc, j'ai pris les initiales de ma fille et j'en ai fait un mot. Et donc, ça devient JM Édition. J-I-H-E-M. J'ai fait un mot avec deux lettres.
D'accord.
Voilà, comme un certain RG, Georges Remy. Parce qu'on dit pas Georges Rémy, on dit Georges Remy. Pas oublier, il n'y a pas d'accent.
Eh bien, Sylvain, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bon festival.
Puis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans ce cadre idyllique à Saint-Ouen-les-Vignes pour le festival.
C'est ça, jusqu'à demain soir.
Merci Sylvain, merci Nicolas. On se retrouve tout de suite après une pause musicale.
Speak about, oh, waves crashing on my body. I shiver from that cold, cold world, that old world. You'll never survive.
Toujours en direct du festival BD de Saint-Ouen-les-Vignes avec Jérémy de BDLire, librairie spécialisée dans la BD rue du Commerce à Tours et qui a un stand ici sur le festival. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Alors on t'écoute pour ta chronique coup de cœur BD.
Oui, alors les coups de cœur BD, je veux juste signaler que des coups de cœur en tant que libraire, on en a régulièrement parce que il y a beaucoup de nouveautés. Et puis le rôle du libraire, c'est justement de mettre en avant et de faire découvrir des albums à ses lecteurs en proposant des coups de cœur et en parlant des livres. Et mon coup de cœur, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le coup de cœur d'un album d'un auteur qui est présent aujourd'hui au festival de Saint-Ouen. C'est un album qui s'appelle Sermilic et qui a été dessiné, scénarisé par Simon Hureau, qui est un auteur de la région, qui est du côté de Langeais et qu'on suit depuis des années, qui avait fait un album très remarqué il y a 2 ans qui s'appelait L'Oasis, où il parlait de son jardin et de la biodiversité. Et cette fois avec Sermilic, il nous emmène au Groenland. Groenland, donc dans la ville de Sermilic, c'est un endroit où il s'est rendu et où il a observé, où il a rencontré les habitants et où il est revenu donc avec un album qui nous propose de découvrir la vie très difficile, très rude de ces Inuits qui vivent au quotidien dans des températures extrêmes. Avec une promiscuité avec les animaux, notamment les chiens, qui ont un rôle très important. Donc c'est à la fois un carnet de voyage, un récit d'expérience, une vraie découverte d'un monde très, très dur, et aussi le portrait d'un homme en particulier qui est décrit dans l'album, qui est celui d'un Français qui est parti, un Marseillais, qui est parti vivre là-bas il y a 40 ans et qui est aujourd'hui toujours là et qui est devenu lui-même un autochtone, un Inuit à son tour, et dont on va découvrir le parcours et le difficile apprentissage pour pouvoir s'intégrer là-bas et devenir un habitant du Groenland. Donc c'est vraiment un très bel album avec un dessin qui fait penser un petit peu au carnet de voyage, entre l'aquarelle un peu et le côté plus ancré qu'on connaît dans la BD. Donc ça reste une BD, hein, mais il y a un côté presque documentaire, enfin en tout cas un témoignage de vie dans cet album publié chez Dargo, donc qui s'appelle Sermilik, et que j'invite donc tous les auditeurs à découvrir cet album en librairie ou en bibliothèque, puisque.
Ok, bah, très bien. Bah, merci Jérémy.
Bah, avec plaisir.
Eh bien, merci Nicolas aussi.
Merci à Radioactive de nous inviter chaque année à participer à votre émission.
Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine, en 2023.
Allez.
Merci aussi à tous les auteurs d'avoir participé à cette émission. Merci aux organisateurs également de nous avoir reçus sur le festival. Et cette émission sera à réécouter en podcast sur le site de Radioactive, sur le www.radioactivefm.fr et aussi sur le site de la Ribambule. Bonne journée et bonne fin de journée surtout sur Radioactive.